Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, la synthèse des yogas 2, le yoga de la connaissance intégrale et le yoga de l'amour divin, traduit de l'anglais par Mère. Alors le chapitre, c'est le chapitre 1 qui s'appelle « L'amour et la triple voie ». La connaissance est le fondement d'une vie constante en le divin. Car la conscience est le fondement de toute notre vie et de tout être. Or, la connaissance est l'action de la conscience, la lumière par laquelle elle se connaît elle-même et ses réalités. Le pouvoir par lequel, partant de l'action, nous sommes capables de saisir les résultats intérieurs de notre pensée, de nos actes, dans une solide croissance de notre être conscient, jusqu'à ce que, par l'union, nous arrivions à l'accomplissement de tout notre être en l'infinitude de l'être divin. Le divin vient à notre rencontre sous bien des aspects, et de chacun de ces aspects, la connaissance est la clé, si bien que par la connaissance, nous entrons en l'infini et possédons le divin en toutes ses manières d'être. Sarva Bhavena. De même que nous le recevons en nous et nous sommes possédés par lui dans toutes nos manières d'être. Sans la connaissance, nous vivons en lui aveuglément, avec tout l'aveuglement du pouvoir de la nature absorbé dans ses œuvres, oublieuse de sa source et de son possesseur. Et par conséquent, nous ne vivons pas divinement. Nous sommes privés de la pleine et vraie félicité de notre être. Par la connaissance, nous parvenons à l'unité consciente avec ce que nous connaissons, car c'est seulement par identité que l'on trouve une connaissance complète et réelle. Et la division est guérie. La cause de toutes nos limitations, nos discordes, toutes nos faiblesses et de notre mécontentement est abolie. Mais la connaissance n'est pas complète sans les œuvres, car Dieu n'est pas seulement l'être pur, ni l'existence silencieuse et consciente de soi. Il est aussi la volonté dans l'être. Et si les œuvres trouvent leur sommet dans la connaissance aussi trouve son accomplissement dans les œuvres. Et ici, de même, l'amour est le couronnement de la connaissance. Car l'amour est la félicité de l'union. Or, l'unité doit être consciente de la joie de cette union pour découvrir toutes les richesses de sa propre félicité. En vérité, la connaissance parfaite conduit à l'amour parfait, la connaissance intégrale à une richesse d'amour infiniment variée et ronde. Celui qui me connaît en tant que suprême Purusha dit la Gita, non seulement en tant qu'unité immuable mais dans le mouvement divin aux âmes innombrables, et aussi comme celui qui est supérieur à l'un et à l'autre, et en lequel l'un et l'autre sont contenus divinement. Celui-là, parce qu'il a la connaissance intégrale, me cherche par amour en toutes ses manières d'être. Telle est la trinité de nos pouvoirs et la triple union en Dieu à laquelle nous parvenons quand nous faisons de la connaissance notre point de départ. L'amour est le sommet de tout être et le chemin de son épanouissement. C'est par lui que nous nous élevons à toutes les intensités, toutes les plénitudes et à l'extase de l'absolu découverte de soi. L'amour nous fait passer de la souffrance, de la division à la béatitude, de l'union parfaite, mais sans pour autant perdre la joie de l'acte d'union. C'est la plus grande découverte que l'âme puisse faire. Et toute la vie du cosmos en est une longue préparation. Ainsi, s'approcher de Dieu par l'amour, c'est se préparer à l'accomplissement spirituel le plus grand qui soit. L'accomplissement de l'amour n'exclut pas la connaissance. Au contraire, il apporte lui-même la connaissance. Et plus la connaissance est complète, plus la possibilité d'amour devient riche. Par la bhakti, dit le Seigneur dans la Gita, l'homme me connaît dans toute son étendue, toute ma grandeur et telle que je suis dans les principes de mon être. Et quand il me connaît dans les principes de mon être, il entre en moi. L'amour sans la connaissance est quelque chose d'intense et de passionné, mais aveugle, peu raffiné, souvent dangereux. C'est un grand pouvoir, mais aussi une pierre d'achoppement. L'amour limité en sa connaissance se condamne à l'étroitesse en sa ferveur et souvent même à cause de sa ferveur, tandis que l'amour qui conduit à la connaissance parfaite apporte l'union absolue et infinie. Or cet amour-là n'est pas compatible avec le travail dit n'est pas incompatible, pardon, avec le travail divin. Au contraire, il s'y jette avec joie, car il aime Dieu et il est un avec lui dans tout son être et par conséquent dans tous les êtres. Travailler pour le monde est alors une façon de sentir et d'accomplir innombrablement son amour pour Dieu. Telle est la trinité de nos pouvoirs, la triple union en le divin, à laquelle nous parvenons quand nous commençons notre voyage par la voie de la dévotion, avec l'amour pour ange du chemin. Alors, je me permets de répéter, la triple union en Dieu à laquelle nous parvenons quand nous commençons notre voyage par la voie de la dévotion avec l'amour pour ange du chemin. Alors, nous découvrons en l'extase de la félicité divine, de l'amant de tout l'accomplissement de notre être, sa demeure sûre, son lieu béatifique et le centre de son rayonnement universel. Le chemin de la bhakti est souvent considéré comme inférieur, inévitablement d'une part parce qu'il a recours à un culte et que le culte appartient à un stade d'expérience spirituelle où existe encore une différence, une unité insuffisante entre l'âme humaine et le divin. Puisque son principe même est l'amour, et que l'amour suppose toujours deux. L'amant est le bien-aimé, un dualiste par conséquent, tandis que l'unité est l'expérience spirituelle la plus haute. Et d'autre part, parce qu'il cherche un Dieu personnel, alors que l'impersonnel est la vérité suprême, éternelle, voire même l'unique réalité. L'amour aussi, autant que la connaissance, nous conduit à l'unité suprême. Mais il lui apporte sa profondeur en son intensité les plus grandes. Il est vrai que l'amour revient avec bonheur à une différence dans l'unité et que par cette différence, l'unité elle-même devient plus riche et plus douce. Mais ici, nous pouvons dire que le cœur est plus sage que la pensée, du moins plus sage que ce genre de pensée qui s'arrête à des idées opposées du divin et se concentre sur l'une à l'exclusion de l'autre, qui semble être son contraire, mais qui est en fait et son complément et le moyen de son accomplissement plus grand. Telle est la faiblesse du mental. Par ses pensées, ses idées positives et négatives, il limite les aspects de la réalité divine qu'il voit et tente à les dresser exclusivement les unes contre les autres. De son côté, l'adepte de la dévotion est enclin à regarder de haut une connaissance pure et simple qui lui paraît aussi sèche que de la sciure de bois. Mais il est vrai que la philosophie en soi, sans le ravissement de l'expérience spirituelle, est une chose aussi sèche qu'elle est claire et qu'elle est incapable de nous donner toute la satisfaction que nous cherchons. Même son expérience spirituelle, tant qu'elle n'a pas quitté le support de la pensée, a jailli au-delà du mental, vit beaucoup trop dans une félicité abstraite, et si la réalisation qu'elle atteint n'est certes pas le vide qu'il semble à la passion du cœur, elle n'en a pas le moindre limitation des pics. Par contre, l'amour est lui-même incomplet sans la connaissance. La Gita distingue trois sortes préliminaires de bhakti. Celle qui cherche le refuge en le divin contre les chagrins du monde, artha. Celle qui est mu par le désir qui s'approche du divin comme du dispensateur de son bien, artharthi, et celle qui est attirée par ce qu'elle aime déjà sans le connaître et qui a soif de connaître cet inconnu divin, jijnasu. Mais elle décerne la palme à la bhakti qui connaît. Évidemment, l'intensité de la passion qui déclare « Je ne comprends pas, j'aime » et qui, parce qu'elle aime, ne se soucie point de comprendre, n'est pas l'ultime expression de l'amour, mais la première, et ce n'est pas non plus sa plus grande intensité. Au contraire, à mesure que la connaissance du divin grandit, la félicité en le divin et l'amour divin doivent grandir. Le ravissement à lui seul n'est pas non plus sans danger, sans le fondement de la connaissance. Vivre en ce que nous aimons nous donne cette sécurité. Mais vivre en l'aimer signifie que l'on en est conscient. Or, l'unité de conscience est la conclusion parfaite de la connaissance. La connaissance du divin donne à l'amour divin sa sécurité la plus solide, lui ouvre toute l'étendue dans la joie de sa propre expérience, l'élève au plus haut faite de sa vision.